Bon, eh bien, on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la conférence de ce soir, je voudrais vous faire deux, trois communications. La première, je n'en ai pas parlé cette année, mais si vous souhaitez avoir des attestations de présence au cycle, comme d'habitude, il faut s'adresser à Madame Dauquier, qui est la secrétaire de l'extension UMONS. Donc vous avez encore les coordonnées. Si pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous ferai suivre ces coordonnées. Mais donc c'est Cindy, C-I-N-D-Y, @umons.ac.be, comme toutes les adresses de l'université. Alors, vous dire aussi qu'on a eu quelques soucis, mais finalement, les conférences de cette année sont en ligne comme les années précédentes. Donc, elles sont en ligne via le site internet de la radio de l'université qui s'appelle UFM, Y-O-U et puis FM. Et quand vous allez sur la page principale de la radio, sur la gauche, vous avez un petit encadré vertical. Vous cliquez sur le mot « émission » au pluriel. Et là, vous cliquez sur le mot « conférence » et vous tomberez sur les conférences de pas à pas, celles de cette année et celles des années précédentes qui ont été enregistrées. Je pense de mémoire que les deux premières années n'ont pas été enregistrées et puis les années suivantes l'ont été. Vous rappelez aussi, mais vous avez probablement reçu le mail, que comme nous sommes à la dernière conférence de cette année, au terme de la conférence, il y a le verre des participants et donc on vous attend en bas pour prendre un petit verre. Et enfin, avant de rentrer dans la conférence de ce soir elle-même, je voudrais vous donner une information que je vais vous faire suivre par mail cette semaine, donc je vous demande d'être attentif à vos boîtes e-mail, concernant le congrès de People 6 qui a lieu cette année à Bruxelles. Donc People 5 avait eu lieu il y a 2 ans pendant l'été, au début de l'été. Et donc on recommence cette année au Square, donc c'est le palais des congrès à Bruxelles près de l'Albertine. Les dates sont le 6 et le 7 juillet, donc c'est tout au début du mois de juillet. Et le thème du congrès qui a bougé entre l'ouverture du thème et aujourd'hui est maintenant fixé sur ceci. Après le DIP, les femmes se conjuguent au futur. Alors, il faut savoir qu'au départ, il était question de la diversité des pratiques après le DIP, donc au XXIe siècle. Et puis, il y a des événements dont vous avez probablement eu écho de consoeurs, psychanalystes qui ont été, dans leur pays, emprisonnés, retenus pour leur travail de psychanalyste. Et donc, on a estimé que les femmes avaient une place, en tout cas, importante et qui avait un lien avec notre futur. Donc, le thème se resserre sur ça. Cependant, toutes les simultanées, c'est-à-dire les exposés que nos collègues feront, tourneront autour de ceci, le cas, l'institution et mon expérience de la psychanalyse. Donc, si vous pouvez rejoindre People, c'est vraiment 2 jours exceptionnels et qu'on a la chance d'accueillir en Belgique et qui concerne toute la communauté européenne de nos collègues psychanalystes. Donc voilà, bienvenue à vous, et je vous enverrai l'information dans le courant de la semaine. Alors, lors de notre dernière conférence, Laura Petrosino et moi-même avons pris la parole pour présenter la fin de la 3e partie du séminaire et le début de la 4e partie. Lacan, dans ce séminaire, s'appuie au départ sur les structures freudiennes de l'esprit, notamment sur le Witz, le mot d'esprit, dont il nous présente la structure au départ du séminaire. Fort de cet appui, vous avez vu qu'il va construire progressivement ce que nous appelons le graphe du désir, en passant notamment par des thèmes tels que la métaphore paternelle, les 3 temps de l'Œdipe, le désir et la jouissance, les masques du symptôme et le désir en ce qu'il est le désir de l'autre. Nous clôturerons ce séminaire et donc cette année avec Véronique Mariage, qui est psychanalyste à Tournai, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous déjà. Alors, elle est aussi directrice thérapeutique au Courtil à l'ERS Nord. Elle est membre de l'ECF et elle est coordinatrice, me rappelait-elle, du Collège clinique de Lille. Lille étant juste à côté de Tournai. Elle prendra la parole ce soir sous le titre « La signification du phallus dans la cure » à partir de la leçon 25 dans le séminaire des formations de l'inconscient. Et je lui cède la parole.
Voilà, merci. Moi je vais je peux parler comme ça parce que les micros ça me couvre. Peut-être c'est pour l'enregistrement, il faut qu'il soit
voilà.
Je suis pas obligée de
très bien quand
j'ai ma chaîne dans la main comme ça. Pour parler du phallus. Tout de suite, il faut pas confondre. Nous dit Lacan. Faut pas confondre. Alors j'ai mis comme titre. moi je pense. Et donc j'ai mis comme titre plutôt quand on confond envie du pénis avec signification du phallus. Plutôt, je pense que ça traite de ça ce chapitre. Ce que ça produit quand on fait cette erreur, en tout cas cette quand on a cette théorie pour diriger la cure. Alors, quand on confond donc signification du phallus comme étant le phallus étant le signifiant du désir. Alors, moi je trouve ça, je ne vous cache pas, j'ai toujours trouvé que c'était très difficile de saisir ce que c'était que le signifiant du désir. Et je trouve que après tout, dans ce chapitre, Lacan donne un petit exemple qui fait un peu avancer pour saisir ça, avec justement l'erreur dans la direction de la cure de Bouvet qui a écrit plusieurs articles, mais c'est le dernier. Et Lacan attache toute une importance à cet article et le commente dans ce chapitre, et c'est celui qui traite justement d'un cas d'obsession féminine. Rare, que je trouve pas si rare, les cas d'obsession féminine, pour finir. Mais disons que très peu, on a peu de littérature de l'époque, en tout cas. Mais Bouvet écrit son article pour traiter de la question du transfert et du maniement du transfert. Alors c'est un peu rigolo quand même, de la façon dont il va insister. Bon, peut-être j'essaierai de vous faire rire, parce que le phallus, ça fait toujours rire. Je pense que c'est une partie du séminaire, hein. Le rire qui est produit par le mot d'esprit, parce que la dimension phallique surgit. Et donc, ça fait toujours rire, c'est toujours comique. Comique et au-delà du comique. Et donc, comme vous sans doute déjà 36 personnes avant moi, enfin des personnes avant moi, je me suis demandé, mais pourquoi donc Miller avait choisi ce chapitre-là pour l'appeler la signification du phallus ? Puisque la signification du phallus, alors il ajoute dans la cure. La signification du phallus, vous savez que c'est un des écrits importants de la même époque de Lacan. Et en somme, donc la signification du phallus, Lacan, c'est une conférence qu'il fait en mai 58. Et donc c'est vraiment contemporain de ce chapitre. C'est juste avant. Trois grands textes, je trouve que Lacan à cette époque était quand même extrêmement... produisait énormément de choses, comme quoi parler du phallus, ça fait produire beaucoup de blabla. Enfin, blabla, je ne vais pas. C'est pas gentil, mais je veux dire que ça fait parler. Effectivement, c'est la dimension phallique qui fait parler. On peut dire ça. Et il y a trois grands textes, la signification du phallus, mais avant celui-là, Jeunesse d'Andrégide, dont nous avons parmi nous. Quand même quelqu'un qui l'a beaucoup lu, et donc qui est écrit en avril 58, donc avril, mai Et puis, juillet 58, la direction de la cure. Et donc, ce texte, la signification du phallus, est vraiment contemporain de trois grands textes très importants des écrits. Mais on va rester aux petits détails du chapitre. Voilà. Alors, Lacan, eh bien, entre-temps, donc, il a beaucoup tergiversé déjà dans les chapitres précédents sur la question avec son fameux graphe qu'il est en train d'établir et qui apparaît quasi complet, je crois, vers la fin. Et vous verrez qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé, parce que je l'ai seulement repéré tout à l'heure. Dans le chapitre suivant, il établit les circuits du désir, de l'hystérique sur le graphe, mais aussi le circuit du désir, de l'obsessionnel sur le graphe, dans le chapitre suivant. Et c'est, je trouve, assez éclairant. Et donc peut-être on aboutira à ça. Voilà. Et donc sa première question, ben, il est encombré avec une question qu'on lui a posée entre les deux séminaires. Sur ce fameux petit triangle qui articule le sujet et l'autre dans le... on a décrit. Donc, qui articule le sujet dans son rapport à l'objet et il fait ce petit carré. Alors pourquoi ce petit carré? Simplement, c'est le signe du rapport du sujet à l'autre, en somme, du schéma L. Vous retrouvez dans le petit carré. Alors, il est question de plusieurs fois du carré dans le chapitre. Il y a le carré du schéma L. On peut l'écrire comme ça. Le schéma L, c'est le schéma en Z. Mais vous pouvez, il faut savoir que ce schéma, c'est un schéma qui est pris dans une torsion. Ça n'est pas, c'est pour ça qu'il y a une face cachée, il a une topologie. Et donc vous avez l'axe imaginaire A' et vous avez le sujet et l'autre. Et donc c'est un carré. Après, vous le retrouvez sous forme de carré dans le schéma. Dans la question préliminaire, dans le schéma R, c'est déplié. D'accord ? Donc c'est toujours un trait similaire qui développe. Moi j'ai compris ça parce que j'étais au cours de Miller. Je pense que c'est écrit. C'est écrit dans des commentaires, dans le bas, dans les écrits. Et donc, voilà. Donc ce carré, tout simplement, c'est simplement une relation en même temps donc, du sujet à l'autre. Mais aussi du sujet à l'objet. Et donc, c'est le rapport du sujet à ses objets, tout simplement, qui a référence donc à ce schéma L. Sujet marqué, donc le sujet marqué à partir du moment où il parle, marqué par le signifiant, ou déterminé par lui, mais aussi déterminé par son semblable. Et d'ailleurs, ici, ce qui est étonnant, c'est que le petit A, ce n'est pas encore l'objet A des séminaires d'après, c'est le semblable, le petit A, encore dans ce schéma du fantasme. Et donc, on voit tout de suite, on peut articuler plein de choses, parce que c'est le rapport du sujet à son semblable, du sujet dans sa vie sexuelle, du sujet dans le couple, du sujet dans son rapport à l'autre, mais à l'autre aussi imaginaire, et comment eh bien, il construit ce rapport d'une manière radicale, je dirais. Parce que le fantasme, c'est quand même une articulation qui est suffisamment ancrée pour déterminer quelque chose du rapport du sujet à la vie. Tout de suite, vous voyez, je dis le petit A, c'est la vie aussi. C'est l'autre, mais c'est aussi la vie. C'est aussi, on voit bien le rapport à la pulsion, le rapport tout de suite. On introduit plein de choses avec cette petite lettre. D'accord ? Mais ce n'est pas ce qu'il dit là dans le... Il le dit très simplement. Et donc, ce petit A, donc, en somme, donc, c'est le sujet marqué par le signifiant. Et pourquoi ? Et le sujet particulièrement marqué par le signifiant, c'est le sujet dans son rapport à la demande. C'est-à-dire que pour satisfaire ses besoins, eh bien le sujet en passe, qui en passe par la parole, en passe par la demande, en passe par le signifiant, et toujours, eh bien, il ne peut pas dire tous ses besoins, il ne peut pas se satisfaire de tous ses besoins, il ne peut pas arriver à dire ce qu'il veut, il ne peut pas... tout de suite, quelque chose, il y a un trou. Et en somme, toute la question du phallus se loge là, dans ce trou. Et du coup, tout de suite, bon, alors Lacan, il dit, c'est une inclusion du symbolique dans le réel. Et donc, très vite, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter dans le schéma. Hein, donc, on a la chaîne signifiante. Il y a l'intention de dire qui traverse cette chaîne, d'accord ? Le sujet qui veut dire et quelque chose d'une signification surgit. Hein, vous avez ça en passe par la demande. Mais la demande, tout de suite, elle est à un autre niveau. Alors, c'est intéressant parce que c'est la demande là, mais... Donc c'est le sujet, dans le rapport, il utilise de nouveau ce petit carré, le sujet dans le rapport à la demande. Le sujet dans le rapport à la demande, ben, tout de suite il y a une autre dimension. Derrière celle où surgit un premier fait, comme ça, d'accord ? Pour passer comme ça. De toute façon, ça en passe par la demande, il y a quelque chose de caché derrière. En somme, l'étage... Le second étage, c'est une face, c'est embêtant de dire une face cachée, c'est celle qui est entre les lignes. C'est celle. Alors, toute la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre les lignes ? C'est le cas de le dire. Quand on dit cette expression, on lit entre les lignes. Qu'est-ce qui est entre les lignes ? Forcément, entre les lignes, c'est l'inconscient. Bon, j'essaie de dire simplement. Voilà. Des choses sans doute que vous avez déjà beaucoup entendues. Alors c'est un schéma extrêmement riche. Hein, on va surtout l'entendre, on va beaucoup l'entendre commenter l'année prochaine, puisque c'est le schéma qui est dans le séminaire suivant, qui va paraître dans le séminaire 6. Et donc sûrement qu'il va être repris et repris, et sûrement qu'on dégagera de ce schéma un au-delà de ce schéma. Je crois. Si on parle d'au-delà de l'Oedipe, si on parle, on dégagera de l'au-delà du père, ou des noms du père, on dégagera quelque chose dans cet au-delà. En même temps, ça l'est déjà, et en même temps, on le redégagera, je pense, avec le désir et son interprétation. Et donc, je peux remettre, hein, donc, ici il y a donc l'autre, la signification qui surgit d'en passer par l'autre. Mais quand vous en passez par l'autre, eh bien, tout de suite, quand vous en passez par l'autre, vous demandez, mais vous demandez, vous ne pouvez pas dire votre demande, et tout de suite surgit un creux où se loge la demande d'amour, la demande de présence, la demande. D'où surgit d'ailleurs la question du désir. Le désir, on le met voilà, ici, dans cette zone. Ça tourne là, la question du désir. Bon. Donc, dès qu'on parle dans la cure, se produit par le transfert cette articulation d'un au-delà. Si on ne touche pas à cet au-delà, eh bien, il peut très bien avoir des cures où on blablate et où on n'arrête pas de simplement faire ce circuit-là. S'il n'y a pas une intervention adéquate de l'analyste qui peut faire entendre quelque chose d'autre, alors Lacan dira, dans le texte, c'est textuel, ça a de l'ordre du signifiant, eh bien, la cure, elle fait ça. Elle revient sur elle-même par l'axe imaginaire à A'. C'est ce que fait. On va dire, c'est ce que fait Bouvet. Et donc, on va le voir. Je ne suis pas du tout ce que j'ai... Ça fait rien. Hein. Simplement, c'est pour poursuivre. Donc la demande est soumise donc à l'autre, au code, mais aussi au-delà. Et donc il faut, pour qu'il y entre en analyse, une prise de conscience de cet au-delà, de l'autre. Et donc Lacan va faire un... Bon, ça va commencer, je vais me mettre à tousser. Pour arrêter ma parole. Bon, voilà, ça j'ai dit. Et donc, dans la relation analytique, le fait de parler, à quoi ça sert? En quoi ça intéresse le symptôme? En quoi ça intéresse et en quoi ça sert la névrose? J'aime bien le... Lacan dit, en quoi cela sert-il à la réduction de la névrose? Il dit réduction, il ne dit pas solution. Hein? Et donc, il dira, tout se passe donc entre ces deux lignes. Alors, quand vous lisez ça, vous vous demandez, mais de quelles les deux lignes parlent? De quelle ligne il parle? Tout se passe entre ces deux lignes qui ont quatre sommets. Alors moi, les deux lignes, je ne sais pas si Philippe sera d'accord. On peut discuter parce que ce n'est pas si évident de comprendre. Les deux lignes, c'est une ligne qu'il crée dans le schéma. Oui, il y a des autres couleurs. Je vois. Donc les deux lignes, c'est celle ici. Et une autre ici. Il articule le désir avec le mental. C'est cochon, on ne sait pas. Non, j'ai pas mon frère. Mais ça va, j'ai des bonbons aussi.
Ah bon, vous avez des bonbons aussi.
Merci, messieurs. Et donc, c'est entre ces deux lignes-là. Moi, c'est comme ça que je comprends les deux lignes. C'est bien sûr ces deux lignes-là, mais celles qui comptent, ce sont celles qui sont produites. Attendez. Vous avez tous le séminaire? Donc, vous avez le schéma complet à la page... La fin, dans les années.
Après la page 506.
Et donc, c'est une qui articule le désir avec le fantasme, c'est un détour. Et l'autre qui articule, si vous voulez, le fait que ça ne traverse pas et que ça repasse par là. C'est très important pour la question de... C'est là-dessus qu'il va différencier le circuit du désir de l'obsessionnel et le circuit du désir de l'hystérique. Il va dire que justement, parce qu'on va se centrer sur celui de l'obsessionnel, si on n'interprète pas de la bonne façon, eh bien, on se retrouve dans la rivalité imaginaire, qui est ici, sur cette première ligne, c'est-à-dire sur l'axe imaginaire du schéma L. D'accord ? Marseille, entre ces deux lignes, il y a quatre sommets. Alors bien sûr, il y a donc un imaginaire qui se réduit au narcissisme MI2A. Et il y a cette zone de toutes les articulations. C'est de cette ligne que circule le désir. Et c'est là que circule le désir, ici. En somme, le désir, ça circule comme ça. On voit que ça doit... Et donc, le désir, eh bien, il se produit entre l'articulation du besoin dans la marge de la demande, dit-il. C'est parce qu'il est véhiculé par la parole. Le désir, il est véhiculé par la parole, donc il en passe par la demande et il ne se réduit pas à la demande. Et en même temps, il en passe par le besoin. C'est-à-dire que... Alors, on voit tout de suite, ça implique le corps, ça implique la vie pulsionnelle, ça implique l'autre, ça implique la mère, ça implique... et donc, le désir circule à travers ça. C'est justement... ce qui ne vient pas s'attraper par la parole. Alors qu'en même temps, c'est par la parole qu'on l'attrape, en même temps, c'est ce qui circule et ne s'attrape pas. Alors, tout le paradoxe, c'est que Lacan dit c'est insignifiant. Il veut en faire insignifiant. Il dit c'est grand-fille, c'est le signifiant qui circule, qui fait que c'est possible. Alors, comment le désir se fixe? Alors, il dit, ce qui fixe le désir, eh bien, c'est le fantasme. C'est-à-dire qu'il fixe l'objet du désir. Là où le désir peut se fixer, c'est dans l'objet du fantasme. Mais c'est aussi les rapports à l'objet phallique. Le signifiant qui, en somme, le représente, ce désir, c'est le signifiant phallique. Il veut en faire un signifiant. Et ce signifiant, eh bien, où est-il? Si c'est un signifiant, il est dans l'autre. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi Lacan n'inscrit jamais le phallus dans son schéma, dans le graphe du désir? Alors bon, on peut s'amuser à quand même l'y mettre. Pourquoi ce signifiant phallique, qui est le signifiant du manque, n'est pas sur ce graphe? Et pourtant, il est essentiel dans la direction de la cure. Et donc, pour montrer qu'il est essentiel dans la direction de la cure, de considérer que le phallus est insignifiant et pas seulement un objet, d'accord ? Il n'est pas seulement un objet sur lequel se fixe le manque, d'accord ? Eh bien, pour montrer qu'il est insignifiant, il reprend ce fameux cas de Bouvet, qui est le cas d'une jeune femme obsessionnelle. Alors, il dit ça a son intérêt. Parce qu'on a rarement, dit Lacan, un cas déployé de névrose obsessionnelle. Alors, bien sûr, c'est un cas déployé à la Bouvet. Bon. Alors, c'est ce fameux cas qu'on retrouve dans un article qui fait une trentaine de pages. Bon. Et Lacan va se centrer sur ce cas pour montrer... comment on manie la question du phallus dans la cure? Comment, pour qu'il y ait une analyse, quel maniement et comment on doit considérer cette place du phallus? En somme, bien sûr, il va montrer l'erreur de Bouvet. L'erreur de Bouvet, c'est de faire du phallus une revendication de quelque chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire la revendication pour la femme qu'elle n'a pas de pénis, ou la revendication pour l'homme qu'il ne veut pas le perdre. Et donc, dans cette névrose obsessionnelle, donc chez une femme, donc qui est rare, ce cas brosse le problème de la spécificité sexuelle dans la névrose. Alors Lacan dit toujours tout de suite le choix de la névrose. On a l'habitude de dire les femmes sont hystériques et les hommes sont obsessionnels. Eh bien non. Dans ce cas, on ne peut pas du tout justement déduire ça de ce cas. Ce cas montre au moins ça. Alors, je vais peut-être vous dire qui est cette dame. Je m'y retrouve. Commencez par dire qui est cette patiente. Alors, cette patiente, dont elle s'appelle Renée, c'est une cure qui dure 14 mois. Renée est une femme de 50 ans, bien portante. C'est marrant parce que Lacan relève qu'elle est bien portante. Elle est mère de deux enfants et elle est de profession paramédicale. Elle vient parce qu'elle a des phénomènes obsessionnels qui se sont aggravés depuis son mariage. Elle a de fortes angoisses. Hein. Lacan ne dit pas symptômes obsessionnels, il dit phénomènes obsessionnels. Elle a l'obsession de contracter la syphilis, elle a une obsession d'infanticide, elle a une obsession d'empoisonnement, hein, et Lacan dit, c'est banal chez les obsessions féminines. Bon, très vite, nous, on pourrait se dire, plutôt, on a ça dans les cas de psychose, non. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des obsessions. Alors, elle a surtout, et c'est là que Lacan va concentrer toute son attention, elle a surtout des obsessions à thème religieux. Et donc, Lacan va faire un sort à ça. Alors, tout le cas de... Alors, on peut encore dire que la patiente, on peut dire qu'elle est malade depuis l'âge de 7 ans. À 3 ans, il y aurait eu un traumatisme infantile d'attouchement sexuel par un oncle. Hein, mais ça commence comme ceci à l'âge de 7 ans. Elle est obligée de toucher 3 fois les plaintes de l'appartement pour annuler les mauvaises pensées qu'elle a sur sa mère. Se répéter 3 fois non, je ne l'ai pas pensé, pour arrêter les pensées. Et on peut constater que ces fantasmes ont des contenus d'une énorme agressivité. Ça, je vous parle à partir, je vous dis ça à partir de Bouvet. Hein. Alors, l'Oedipe apparaît normal. Renée faisait l'éloge de son père et elle haïssait sa mère. Puis, le père, plus tard, quelque chose s'est renversé. Elle s'est mise à critiquer le père comme étant quelqu'un qui était dévalorisé parce qu'il n'était que brigadier de gendarmerie. En plus, et alors ça c'est intéressant, et Lacan le relève, elle critique et reproche à son père. Alors ça, c'est un détail vraiment intéressant. Elle critique, elle reproche à son père d'être jaloux d'un premier amour que sa mère a eu. Donc que la mère de la patiente, donc la mère de la patiente a eu dans son jeune âge un amour platonique pour quelqu'un et le père en est jaloux. D'accord ? Toujours. Mais c'est la patiente qui relève ça comme étant vraiment un problème. Et elle en veut à son père pour ça. Alors, derrière ses reproches, se dissimule une agressivité plus importante et des rêves de castration de son père. Ceci apparaît par exemple dans, parce qu'il y en a beaucoup des rêves hein, dans ce cas, ça apparaît dans un rêve où elle rêve qu'elle entre dans la chambre mortuaire où son oncle est mort, qui est un frère du père, et elle voit les organes génitaux du mort en pleine décomposition. Voilà, par exemple. Bon, vous allez voir qu'après, c'est encore beaucoup plus... ces fantasmes sont trop d'agressivité. Du côté de sa mère, eh bien... D'abord, elle l'affectionne, tout spécialement, sa mère. Et puis, plus tard, elle reproche de l'avoir soumis à une discipline féroce. C'est-à-dire que c'est la mère qui l'a soumise à une discipline catholique, d'ordre de, donc religieuse, d'éducation catholique. Elle a aussi beaucoup prévenu de faire attention aux hommes. Et la fille donc trouvait en plus que sa mère était d'un milieu plus élevé que le père, en savait plus. Alors voilà, on peut dire que dans ce couple sado-masochiste entre la mère et la fille, ce qui touche à ce couple qu'elle installe dans son rapport à l'autre, on pourrait dire, ce sont des souhaits de mort. Alors, elle a aussi, dans son adolescence, a été passionnée, comme la jeune homosexuelle, dans des relations féminines, plutôt passionnée pour les filles, se gardant bien d'éloigner les garçons, comme la mère l'avait d'ailleurs demandé. Et elle est d'ailleurs tout particulièrement affectueuse. Elle porte tout particulièrement de l'affection pour une femme infirmière. Elle a aussi deux fils. Alors les deux fils, ils sont dans une position. Le premier, c'est terrible. C'est terrible. Elle panique dès qu'elle se retrouve seule avec lui. Et d'ailleurs, ce fils, donc elle se plaint, que ce fils lui porte une attention glaciale. Et pour le deuxième, Bouvet dira que c'est grâce à l'analyse de la patiente que quand même, il arrivera à avoir un travail. Alors, elle se marie. Et le mari a comme profession, il est officier de réserve. En référence au père qui lui était sous-officier, donc avec un grade en plus. Hein. Et elle a beaucoup de condescendance pour lui, comme avec sa mère. Alors voilà, ça c'est de la façon dont comment on peut présenter un peu donc, le cadre, en somme, de la vie de cette dame. Alors, on va maintenant... s'atteler à quelque chose de plus difficile, la cure. La cure dure 14 mois. Et donc, comme je vous le disais, elle a des obsessions à thème religieux qui sont très singuliers. Alors, il faut savoir que Lacan va centrer son commentaire sur la première phase de l'analyse. Parce que, en somme, ce qui est intéressant, c'est que dans cette première phase, il y a l'interprétation de Bouvet, son erreur, qui se perpétue après dans les autres phases. Même si vous allez voir, les obsessions vont mieux, elle est moins angoissée, mais les obsessions restent, etc. Et donc, on va se centrer plutôt sur cette première. Donc, sur ces obsessions à thème religieux. Alors, elle a des idées très eschatologiques. À la place de l'hostie, donc quand elle reçoit l'hostie, elle pense aux organes génitaux masculins, à la place de l'hostie. Lacan fera ce commentaire. Les organes génitaux à la place des organes... Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Alors, c'est ça, il dit. Donc, il y a un mécanisme à la place de. Donc, il y a un mécanisme de... À la place de l'hostie, les organes génitaux, il y a quelque chose du rapport au refoulement qui se dit dans l'obsession. Quelque chose est refoulé, qui réapparaît avec l'hostie. L'hostie qui est le Christ. Le Christ, dit-il, il faut reprendre ça dans le textuel, c'est-à-dire du côté du signifiant. Le Christ, eh bien, c'est le Verbe, c'est le Logos, c'est la parole incarnée, le Christ. Il est le Verbe donc incarné, qui se substitue, donc il y a quelque chose du Christ qui se substitue au phallique, des organes génitaux. Il faut prendre ça, dit-il, il faut le prendre du côté signifiant. Il ne faut pas le prendre du côté, elle revendique, parce que Bouvet, ce qu'il va faire, c'est que il va interpréter en lui disant, voilà, vous revendiquez de ne pas être un homme. Vous revendiquez de ne pas avoir de pénis. Donc lui, il interprète la castration en termes d'avoir. Mais Lacan va insister tout le temps, comment faire pour interpréter, en se disant que le phallus, eh bien, ça n'est pas l'organe masculin. Le phallus, c'est un signifiant. C'est un signifiant privilégié qui sert à privilégier, désigner l'effet. Alors, c'est ça qui est difficile. C'est le signifiant qui permet et désigne l'effet, la marque, l'empreinte, la blessure de l'ensemble des signifiants. Et qui fait que pour le sujet humain, il y a quelque chose à signifier. Le phallus, donc, c'est la marque qui dit qu'il y a quelque chose qui en même temps est signifiant, qui permet de le signifier. Hein, c'est le fameux, c'est le nom du Père. Ça a à voir avec la question du nom du Père. Le nom du Père, c'est l'articulation du phallus et de l'autre. Et donc c'est ça qu'il va essayer tout le temps, d'attraper dans ce cas. Alors, plus loin dans l'observation, mais c'est deux pages après, hein, donc c'est dans toute la première partie, la première phase de l'analyse, elle rêve. Elle rêve qu'elle écrase le Christ à coups de pied. Et elle ajoute, d'ailleurs la tête ressemblait à la vôtre, à l'analyste. Donc vous voyez le taux d'agressivité. Bon. Puis, elle dit, donc voilà, elle fait ce rêve, elle dit ça, et puis elle dit, je suis passée pour venir chez vous devant un magasin de pompes funèbres, j'ai vu une série de crucifix, et j'ai pensé, j'ai eu la sensation que je marchais sur les crucifix, sur leurs verges, dit-elle, avec plaisir et angoisse. Lacan dira, le Christ est ici matérialisé donc par un objet, le crucifix, avec un sexe, le phallus, l'objet phallique, pas le signifiant phallique. Ça qui est intéressant, en même temps, c'est insignifiant parce que, après tout, tout ça ne sont que des mots. Elle n'a pas piétiné la verge du Christ. Et donc, ce sont ses fantasmes. Et donc, l'analyste eh bien, est mis par elle à être le phallus dans sa totalité. par le fait qu'elle a l'idée, bah, après tout, c'était vous dont j'écrasais. Elle écrase le Christ à coups de pied et la tête du Christ, eh bien, c'est celle de l'analyste. Alors, Bouvet, lui, voilà comment il prend les choses. Donc, le désir d'avoir un pénis, dit-il, fourni par l'analyste, était accompagné d'un fantasme de destruction de l'organe du médecin. Ça a conséquent, comme conséquence, une agressivité énorme, et cette agressivité, c'est sa position quant à l'homme, qui possède de ce dont elle a toujours été privée. Donc ça, c'est la ligne de Bouvet. Et donc, c'est aussi en référence à sa mère. Lacan dira donc que Bouvet interprète dans le sens d'une transposition de son agressivité de la mère à l'homme, puisque c'est la mère qui a pas de pénis, et donc, après tout, elle devrait... Bon, là, dans ce moment de la cure, c'est son agressivité, elle l'a fait porter sur l'homme. Alors, tout Bouvet va tout interpréter comme ça, sur ce registre-là. Vous voulez être un homme, et alors elle va, pas du tout, vous trompez complètement, j'ai jamais désiré être un homme. Et lui, il n'entend pas, il continue. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est... C'est de voir que après tout, ces interprétations de Bouvet vont calmer quand même l'angoisse. Cette interprétation de Bouvet calme l'angoisse. Et la deuxième, ce qu'il appelle la deuxième phase dans l'analyse, parce que Bouvet écrit ce texte surtout sur la question du transfert. Hein, donc ce qui se produit au travers de ce qui s'adresse à l'analyste. Et le transfert qui était négatif, tout à fait négatif dans la première phase de la cure, va devenir plutôt bienveillant. Sauf qu'elle va être arrêtée elle prend difficulté alors de parler. Donc comme s'il y avait une rétention, enfin moi je dirais ça, une inhibition de la parole qui inhibe l'angoisse, on pourrait dire ça, qui inhibe l'angoisse, et qui fait que quelque chose est un peu bienveillant, mais alors il n'y a plus rien qui se passe dans la cure, il n'y a plus d'avancée. Et donc, elle peut raconter tous les rêves, toutes les histoires phallicisées, et ça n'a plus d'au-delà. C'est-à-dire que ce que Lacan dit, c'est que la cure, eh bien, finit par tourner ici. Voilà. Quand elle parle... Ça fait ça, et ça retourne sur cet axe-là, d'une manière, l'axe imaginaire est devenu bienveillant. L'agressivité est tombée, mais alors il n'y a plus d'analyse possible. Ça n'avance plus. Et d'ailleurs, Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette première partie donc, de la cure, Lacan relève autre chose. Plus loin dans la cure. Ça insiste. Et Bouvet interprète toujours du côté vous voulez être un homme, vous revendiquez de ne pas avoir de pénis, du côté de la revendication phallique. Lacan, il dit pourtant, il ne faut pas aller bien loin dans la cure. Très vite, il y a une autre piste. Et pour s'en rendre compte, eh bien, il faut prendre d'une manière tout autre le signifiant les souliers. Alors, je vais vous lire comment ça le... En somme, dans le transfert, elle reproche à l'analyste, ce qui va arriver très vite dans la cure, c'est qu'elle reproche à l'analyste de ne pas pouvoir s'acheter des souliers parce qu'elle doit le payer. Et donc, elle peut pas s'acheter des nouveaux souliers. Bon. C'est vrai qu'après tout, bon, voilà, les souliers. Eh bien, Lacan s'attache à ce signifiant, les souliers. C'est pour montrer combien, combien c'est tout autre, la direction lacanienne, qui s'attache au signifiant. Et donc, ce sont, voilà, l'embarras de ne pas pouvoir s'acheter des souliers, puisqu'elle doit le payer. Alors, je vais vous lire le passage dans Bouvet. C'est la page 223 de l'article de la revue française de psychanalyse de 1950, tome 14, numéro 2. C'est la chance que celui qui m'a fait la photocopie, il avait indiqué la référence. Alors, attendez, hein, parce que c'est drôle. Elle se plaignit toujours de la charge financière du traitement, énumérait complaisamment tous les achats qu'elle aurait pu se permettre et revenait sans cesse sur le désir qu'elle avait de se procurer des chaussures. Les hommes, disait-elle, étaient très sensibles à la vue d'une femme bien chaussée. Puis vint le rêve, après, vers le cinquième mois du traitement, qui devait permettre, donc un rêve, dit Bouvet, qui devait permettre à l'analyse de progresser et de s'engager dans une nouvelle voie. On ne sait pas. Alors, voici le rêve. Je suis dans le service hospitalier où je travaille. Ma mère vient dans le service. Elle dit du mal de moi à la surveillante. Je suis furieuse et je sors. Je rentre dans la boutique d'un savetier qui se trouve en face de l'hôpital. Et j'achète une paire de chaussures. Puis tout d'un coup, ouvrant la fenêtre, je me mets à injurier violemment ma mère et le chef de service. Ses chaussures étaient toujours, le choix de ses chaussures était toujours des chaussures pointues, fait remarquer Bouvet. Elle s'engagea ensuite dans une digression relative à l'entretien qu'elle assurait des chaussures de son père. Puis elle vint à parler du cordonnier qui était un homme jeune, brun, et qui n'était pas sans présenter quelques analogies avec, avec l'analyste. Alors, ça y est, maintenant je ne retrouve pas. Voilà. Donc voilà, elle rêve d'acheter des chaussures. Donc ces chaussures, dont Bouvet dit d'ailleurs un peu plus loin, dans la première phase du rêve, elle ne pouvait que supporter l'injustice de sa mère et qu'après avoir été acheter des chaussures, il lui était impossible de se révolter ouvertement. De plus, le cordonnier à qui elle donnait de l'argent ressemblait fort à l'analyste. Quelque chose était manifestement symbolisé par des chaussures qui l'avaient amené à penser à celles de son père. Ça, c'est les interprétations de Bouvet. Ce rêve exprimait un désir de possession phallique. Le pied, bien chaussé, représentatif du phallus puissant, dit Bouvet. Besoin d'identification au père. L'embarras, donc, dit Lacan, de ne pouvoir s'acheter des souliers et reprocher à l'analyste. On ne peut pas ne reconnaître la valeur phallique, bien sûr, du soulier. D'ailleurs, Bouvet le reconnaît, mais pas de la même façon. Et tout spécialement, dit Lacan, du talon dont elle fait usage pour écraser la tête du Christ. Alors, après cette revendication qu'elle ne peut s'acheter des souliers, elle fait un rêve. Voilà des. Alors, le rêve, voici, j'ai rêvé que j'ai écrasé la tête du Christ à coups de pied, et cette tête ressemblait à la vôtre. » Et en association, les obsessions suivantes surgissent. Je passe chaque matin pour me rendre à mon travail devant le magasin. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle voit les Christ. Hein, donc il y a d'abord la revendication des souliers, et puis elle voit le Christ et elle s'imagine qu'elle écrase les verges et qu'elle écrase la tête de l'analyste. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, on ne peut ne pas reconnaître la valeur phallique du soulier, dit Lacan, et tout spécialement, dit-il, du talon, dont elle fait usage pour écraser la tête du Christ. Le soulier, on ne peut pas lui donner, dit Lacan, valeur de fétiche. Le soulier, dit-il, c'est insignifiant, porteur de la signification phallique. En ce point de l'analyse. Dans ce moment de l'analyse, vous voulez posséder le phallus, vous désirez être un homme, dira Beauvais. Et la patiente ne va pas arrêter de s'opposer. Après, vous pourrez lire à chaque fois que Beauvais va dire ça. Elle n'admit pas d'emblée ce désir de possession phallique, pourtant clairement exprimé. Et si elle acceptait maintenant notre analyse de ses rapports avec Dieu, son mari et nous-mêmes, elle n'en maintenait pas moins son opinion sur le caractère artificiel et proprement arbitraire de mes interprétations des rêves. « Je n'avais jamais désiré être un homme, » disait-elle. Mais son comportement dans l'analyse changea et le transfert devient bienveillant. Deuxième phase de l'analyse. Lacan ne va pas plus loin dans le texte. Il s'attache surtout à la question de la chaussure. Qu'elle n'a jamais eu le désir d'être un homme. Ce n'est pas la même chose, dit Lacan, de désirer posséder le phallus et de vouloir être un homme. Premier décalage, mais qui nous suffit pas. Lacan soulève. Elle dit bien plus, elle fait un pas de plus dans ce qu'elle dit et que Beauvais ne voit pas. Elle dit, quand je suis bien habillée, quand j'ai des jolis souliers, les hommes me désirent et je me dis, en voilà encore qui seront pour leurs frais. C'est-à-dire la chaussure, c'est ce qui fait qu'elle peut faire désirer les hommes. Elle peut faire de l'homme, en sachant très bien qu'ils ne l'auront pas. C'est-à-dire qu'ils en auront pour leurs frais. Et donc, Lacan si rapport au phallus il y a, quel est-il ? Questionne alors Lacan. Il y a plusieurs éléments. Il faut d'abord le reporter à la mère, plus intelligente, énergique, le rapport au phallus. Il faut aussi, donc, c'est le rapport de la mère avec le père. Le père n'avait pas pu triompher de l'attachement de sa femme pour un autre, platonique. Et donc, ce dont il s'agit, dit Lacan, ici, c'est le rapport du désir du sujet au désir de la mère. À l'origine du désir, dit Lacan, c'est toujours le désir de la mère qui est en jeu. Donc à cette époque-là, de Lacan. Le désir de la mère, c'est ce qui va compter pour approcher son propre désir. Et d'ailleurs, la patiente a une sœur qu'elle n'a jamais pu supporter et elle a toujours été en grand conflit avec sa mère qui s'intéressait à cette sœur. Le problème n'est pas de savoir si la mère a ou n'a pas le phallus, mais il est de savoir, et c'est là toute la subtilité, ce qui est l'effet dans l'autre de cet X qu'est le désir. Donc c'est la question. Que veut l'autre? Que me veut-il? Quel est son désir? Qu'est-ce que je suis? C'est-à-dire du côté de l'être dans le désir de l'autre. C'est tout autre chose. Et donc Bouvet ne voit jamais ça. Il va voir platement, elle veut être un homme, elle désire le pénis d'un homme, elle ne l'a pas, elle le revendique, etc. Et donc c'est là que... C'est-à-dire, s'il est... Donc, je reprends. Mais il est donc question de savoir ce qui est l'effet dans l'autre, donc le phallus, ce qui est l'effet dans l'autre de cet ixte qu'est le désir. C'est-à-dire s'il est ou n'est pas ce que le désir de l'autre est. Le problème ne tourne donc pas autour d'avoir ou pas le phallus, qui a été d'ailleurs le problème de Freud, qui a avancé sur la question... ça a été une question de Freud jusque la question du pénis Nine, etc. C'est parce qu'il ne l'est pas, le sujet. Il ne l'est pas, le phallus, dans le désir de la mère. C'est parce qu'il ne l'est pas que le sujet peut normaliser sa position naturelle de l'avoir ou pas. Alors ça, c'est très subtil. Parce que c'est parce qu'il n'est pas le phallus dans le désir de la mère qu'il peut avoir une idée de l'avoir ou pas. C'est-à-dire avoir une identité sexuée. De l'avoir ou pas. C'est ce qu'ils expriment dans le fantasme des souliers. C'est ce qu'ils expriment. Il s'agit de la possession ou non-possession des souliers féminins ou phalliques. Ce fantasme des souliers dans la cure amène la patiente à ceci. Elle fait comme si elle l'a. Elle veut l'avoir sous forme de vêtements, sous forme de vêtements qui vont exciter donc le désir des hommes et grâce auxquels elle pourra les décevoir de leur désir. Voilà à quoi ça sert le phallus, le signifiant phallique. D'accord, c'est, je ne sais pas si je fais un... Parce que c'est des subtilités de langage aussi avec... et on s'y perd quand on les nie. Ce qu'elle démontre donc, à vouloir se présenter comme ayant ce qu'elle sait parfaitement n'avoir pas, il s'agit là pour elle de quelque chose de toute autre valeur. La mascarade, elle fait de sa féminité un masque. Voilà où en est Lacan à ce moment-là sur la question de la féminité. À partir du fait que le phallus est pour elle le signifiant du désir, ici représenté par les souliers qui sont repris dans la mascarade féminine, qui soutiennent sa mascarade, du côté du vêtement et du voile, du masque, elle masque quelque chose. Donc à partir du fait que le phallus est pour elle le signifiant du désir, il s'agit pour elle qu'elle en présente l'apparence, qu'elle paraisse l'être, qu'elle soit objet d'un désir qu'elle sait qu'elle va décevoir. Être l'objet du désir de l'autre, c'est bien différent d'avoir ou pas l'organe. Elle veut être ce que sa mère désire, ce qui est originel, dit Lacan. Pour l'être, il faut détruire l'objet de son désir. L'homme n'est pas plus le phallus que la femme. Ce qui fait l'agressivité de cette patiente et le fait qu'elle soit obsessionnelle, ce qui fait sa névrose, ce qui fait l'agressivité envers son mari, par exemple, c'est qu'il est le phallus comme elle l'est. Du coup, ils sont en position de rivalité. Et du coup, elle le détruit. Retombe sur l'axe imaginaire. Et donc l'analyste ne voit pas ça et il le donne fantasmatiquement, dit Lacan, le phallus. Il consent à être un désir de possession phallique. Et moi je te le donne, dira-t-il. Alors ce qui est très joliment pointé par Lacan, c'est que la cure de la patiente se termine sur « je vais envoyer mon fils celui qui me fait paniquer et celui qui, avec qui je ne peux pas parler et qui ne veut pas me parler, etc. C'est lui, elle veut qu'il aille rencontrer un analyste. Et donc la Candy, elle envoie son fils et elle sort de la cure, elle offre son fils à l'analyste. C'est comme ça que Lacan va terminer ce chapitre. Alors, j'ai été recherchée un peu dans la signification du phallus, le texte des écrits, c'est aussi c'est une mise en place quand même de toutes ces questions. Et ça précède ce séminaire de 2 semaines. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Le phallus s'éclaire de sa fonction. Sa fonction, c'est d'être insignifiant. Et pas l'organe qui manque ou qui n'y a pas. Cet insignifiant destiné à désigner dans leurs ensembles les effets de signifier. En tant que le désir coule entre ces signifiés. Sous le rapport du sujet à la demande. Donc, quand le sujet parle, s'adresse à l'analyste, même quand dès qu'il parle et qu'il veut se faire désirer par l'autre ou désirer l'autre, ou il en passe par la demande, il ne peut pas faire autrement. Cette demande court dans au-delà de cette demande, le désir qui coule sous le rapport du sujet à la demande. C'est mu par son appétit de satisfaction. C'est ni l'appétit de satisfaction, ni la demande d'amour. Alors, c'est ça qui est très différent, qui est très difficile. Il y a une phrase, je trouve très compliquée. Alors, on va la reprendre. C'est page 691 des écrits. Qu'est-ce que c'est que le 691... Qui dit du désir. Le désir n'est ni l'appétit de la satisfaction, parce qu'on pense ça souvent. On pense que le désir, c'est l'appétit que j'ai de me satisfaire de quelque chose. Eh bien, il dit, le désir n'est ni l'appétit de la satisfaction, ni la demande d'amour. On ne peut pas les faire équivaloir. Mais la différence qui résulte de la soustraction du premier à la seconde, c'est-à-dire de ce qui résulte de soustraire de l'appétit de satisfaction la demande d'amour. Ah, c'est difficile à saisir. Il dit ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène même de la refonte, de la Spaltung. Donc il y a quelque chose qui ne s'attrape pas. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé dans la façon dont il le dit. Donc, dans son soustraire l'appétit de satisfaction de la demande, par la demande, non, comment est-ce qu'on peut le prendre ?
Soustraire la demande d'amour de la
demande. De la demande, voilà, la demande d'amour de la satisfaction, l'appétit de satisfaction. Eh bien, là, il y a une refonte, il y a quelque chose qui ne s'attrape pas. Le désir court là. Il court là.
Il y a quelque chose autour.
Alors, on peut dire il court là. Hein, le désir, il court ici. Parce que l'appétit de satisfaction, c'est aussi la question du besoin et de la pulsion. Vous voyez qu'il y a mes pulsions aussi. Et donc, c'est ce qui court là, dans cette soustraction, et qui se refend. C'est-à-dire qui se divise. Et qui s'attrape par le fantasme, par un objet, en l'articulant à un objet. Ensemble, on peut dire ça. Quand il y a quelque chose d'un peu organisé de ça, eh bien, c'est le fantasme. Enfin, moi, c'est comme ça que je le saisis. Et donc, le sujet en est divisé dans son rapport à un objet qui se fixe pour tenter d'échapper à ce qui se barre. À ce qui se barre dans l'autre barré, hein, parce que c'est, C'est en somme ce qui se barre et qui ne peut, ou qui va à l'infini, ou qui fait le non-rapport. Quand on dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est ça. Et alors il continue dans le... c'est intéressant dans le texte sur la signification du phallus, mais je le relis avec, bien sûr, un pas de plus. Dans cette époque, il ne le dit pas comme ça. Hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit de cette refonte et de cette l'abéance de cette énigme? Donc, il dit l'abéance de cette énigme. Dans cette énigme, laisse une béance. C'est ce qui marque la relation sexuelle, dit-il. C'est vraiment intéressant. Le sujet comme autre, pour chacun des partenaires de la relation, ne peuvent se suffire d'être sujet du besoin, ni objet d'amour, mais doivent tenir lieu de cause du désir. Cette vérité est au cœur de la vie sexuelle. Le phallus est le signifiant de cette aufhebung, de cette disparition. Donc quelque chose ne peut s'attraper. Et le signifiant, ce qu'on appelle le signifiant du phallus, c'est ce qui ne s'attrape pas. D'accord ? C'est ce qui ne peut pas s'attraper. Alors qu'on croit que c'est... Et en même temps, c'est le moteur de la signification. C'est en même temps ce qui ne s'attrape pas, mais c'est aussi parce que ça ne s'attrape pas que ça signifie. Donc voilà, je vais m'arrêter là. De saisir... chose difficile. Hein. Bon. Vous pouvez aller avec... Je ne sais pas si j'étais...
Ce sont des leçons très denses, oui. Alors...
On voit la question ce qui est formidable avec Lacan, c'est que la question reste toujours ouverte. Hein. Reste toujours continuer. Voilà, dans la signification du phallus, quand même. Voilà. Vas-y, Yvan.
Alors, voilà, j'avais peut-être deux, trois petites choses pour ouvrir le débat. D'abord, au début de l'exposé, deux choses. Lorsque tu dis Lacan note bien que ce qui pourrait nous apparaître comme. Des éléments attestant plutôt d'une psychose, il ne le prend pas du tout comme ça, il le prend comme la présence d'obsession. Ça me semble très important au niveau de la clinique et de nos pratiques de pouvoir faire ces repérages-là.
Oui, simplement, je vais remarquer que je ne sais plus si c'est dans la signification du phallus ou dans le chapitre que Lacan dit. La névrose obsessionnelle, c'est la névrose la plus affirmée comme névrose.
Et aussi le fait que, à travers le schéma, on voit où se loge donc la demande d'amour, mais tu disais aussi demande de présence, et Lacan dit aussi dans le texte, je pense, demande de savoir.
Aussi.
Et on voit bien certains sujets qui rentrent en analyse en disant. En affirmant clairement une demande de savoir.
Le savoir, qu'est-ce que ça signifie tout ça?
Voilà. ou des demandes du type je rentre en analyse parce que je veux devenir analyste, par exemple, du côté de s'approprier.
D'identification.
Voilà.
Dans le premier temps.
Voilà. Demande de présence aussi, d'être. Que le sujet, demande et questionne la présence, la constance de la présence de l'analyste, par exemple. Pour venir à la fin de l'exposé, lorsque tu dis le signifiant phallique du phallus, le signifiant du phallus, c'est ce qui ne s'attrape pas, comment est-ce que on peut mettre ça en tension avec ce que Lacan repère, par exemple, justement, au niveau de ce signifiant chaussure.
Ben oui. Il le représente. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Lacan, lui, la chaussure, il en fait un signifiant. Il en fait un signifiant et un au-delà, parce que de la chaussure, il n'en reste pas à la dimension. Il dit justement, c'est pas un fétiche. Ou si c'est une forme de fétiche, en tout cas, chez cette femme, ça n'est pas un fétiche. C'est pas un objet phallique, la chaussure. C'est un signifiant. C'est un signifiant, c'est-à-dire qui est mobilisable. Elle le mobilise tellement bien qu'elle peut en faire une mascarade. Par exemple, ça c'est ce qu'il dit, qu'elle peut l'être, plutôt que ça soit un objet. Ben, c'est comme ça que je l'entends, comme autant, quand c'est le signifiant, c'est ce qui permet que ça signifie. Le signifiant phallique étant celui qui ouvre à tenter de signifier quelque chose du désir. Mais c'est en même temps, quand on lit la signification du phallus, son texte, là qui est un texte quand même qui est mis, qui est un peu plus en place, hein, là on voit combien c'est, il faut le reporter à justement, de ce qui, justement c'est ce qui ne se représente pas, qui est le signifiant phallique qui permet que la signification soit possible. C'est aussi une topologie, dira Lacan. Peut-être une question.
Ce qui est aussi amusant dans cette affaire avec Bouvet, c'est que tout ça est construit quand même sur un X.
Voilà.
Que désire la mère ?
Que désire la mère ?
Dans le fond, elle fait toute une histoire de l'amour de jeunesse de sa mère. Ouais. Manifestement, c'est l'insatisfaction de sa mère. Enfin, ce qui, dans la mère, ne trouve pas de réponse.
Voilà.
L'insatisfaction,
ce n'est pas le bon mot. C'est ce qui ne trouve pas de réponse.
Ce qui ne trouve pas de réponse. Et c'est dans cette zone-là que...
La zone du féminin.
Voilà.
De la mère.
Et tout le cas... converge vers ce point-là. Ce qu'il appelle le phallus, Lacan, finalement,
c'est ça.
Et c'est pas les affaires du... Et c'est pas le brigadier, c'est pas l'organe.
Voilà.
C'est simplement que... Il y a quelque chose même de simple là-dedans qui tient la... Il y a un point de fuite.
Voilà.
Il y a un point de fuite dans le signifiant. C'est que dans tout le discours, dans tout l'Œdipe de cette dame, d'emblée, on a dans l'au-delà de l'Œdipe, la mère désire ailleurs.
Elle désire.
Et manifestement, la fille est tout à fait fascinée par ce point X qui est tout à fait infini, parce qu'un amour de jeunesse, c'est le côté...
C'est étonnant, hein. Enfin, oui, c'est étonnant. Enfin, il faut savoir l'entendre.
Voilà.
Enfin, en même temps, Lacan dit que ça devait sûrement insister pour que Bouvet l'ait écrit.
Voilà.
Cette plainte étrange de se plaindre, donc elle est agressive avec son père parce que il continue à être jaloux d'une autre que sa mère a aimée. Et tu vois que
oui, c'est
d'un
ça.
Autre que sa mère a aimé, pas d'une autre, d'un autre. Comme étant un amour idéalisé, puis c'est un amour platonique. Ben oui, on peut. Voilà. Oui.
Oui, ben, je voulais vous demander la chose suivante. J'ai un peu l'impression qu'on s'est parfois arrêté en examinant Lacan en cours de route. Je prends un exemple. C'est un exemple, une question que j'aurais voulu posé à l'occasion de la conférence précédente, mais je n'ai pas eu l'occasion. C'est-à-dire que dans la question de la, du phallus.
Oui.
Freud a toute une construction là-dessus. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre schéma, mais vous n'êtes pas revenu là-dessus. Lorsqu'on parle phallus, chez Freud, on parle automatiquement de la peur de la castration.
Voilà, tout à fait.
Or ici, vis-à-vis de René, là, qui a deux enfants, etc., je ne verrais pas le rapport de castration, à moins que, en voulant, enfin, en se demandant pourquoi elle n'a pas de phallus, elle pourrait se poser en même temps la question qu'il y a un risque, en ayant un phallus, de se faire castrer.
Oui, mais justement, Lacan se détache de ça.
Voilà. C'est ça. En fait, ça, c'est ma question. Ça, c'est ma question en disant, tiens, voilà, ici, Lacan ne suit pas...
Il part de là pour dire quelque chose d'au-delà de ça. Il fait un pas de plus. C'est pas le côté se détacher de ça, parce que c'est... En même temps, c'est pas faux, ça existe, mais il y a quelque chose au-delà de ça qui est à entendre.
Et alors, une deuxième question qui, je ne suis pas la seule à me l'être posée, mais je vous la pose. C'est-à-dire que Freud va construire au départ de sa théorie toute une construction qui va se retrouver dans son dernier opus et qui est Moïse ou le monothéisme. J'abrège le titre, le titre est plus long que ça. Et attendez, je peux prendre... Ah oui, alors ma réflexion est la suivante. Quand j'examine l'opus de Freud et que je passe après à Lacan, je me demande, je me pose la question suivante, et je ne suis pas le seul à me l'être posée. Est-ce que la psychanalyse aurait existé si Freud n'avait pas été juif? Je vous remercie.
Ouais, je ne vais pas vous répondre. Elle a existé. Bon. Encore une question ?
Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion qui m'est venue sur vos dernières petites phrases. Au tout début de ma pratique professionnelle, pendant des années, on s'est retrouvés, mon équipe et moi-même, en impasse vis-à-vis d'une grande schizophrène qui n'arrêtait pas de témoigner de la béance, de l'énigme de la vie pour elle et d'un non-sens fondamental. C'est un petit peu ce dont vous avez témoigné vraiment sur la fin, avec beaucoup de phrases qui, pour moi, faisaient écho à cette jeune dame qui n'avait justement à cette époque-là aucun fantasme construit pour se soutenir dans la vie, aucun objet auquel se rattacher. Et vraiment, c'est quelqu'un qu'on a suivi pendant 15 ans. Et c'est seulement au fur et à mesure du temps qui a passé où il y a eu quelque chose d'un fantasme qui a pu se construire qu'elle a pu se soutenir de quelque chose dans la vie et se détacher complètement de à quoi ça sert de vivre, c'est quoi cette béance fondamentale à laquelle vous, les professionnels, vous ne pouvez pas répondre.
Le sujet psychotique, comme le névrosé, a affaire à cette béance.
Tout à fait.
Sauf qu'il n'a pas l'outil, justement.
Exactement.
Il n'a pas l'outil de nouer quelque chose qui fait qu'une signification tienne pour interpréter la vie.
Exactement.
Voilà. Et donc, il doit trouver d'autres...
D'autres astuces.
Pour construire un rapport au monde.
Tout à fait.
Ça, voilà, ça rejoint. Effectivement. C'est... Mais la névrose, quand elle se coince dans son rapport phallicisé de rivalité, etc., ça peut être très invalidant aussi. Enfin, c'est autre chose. Enfin, on voit bien. C'est en même temps la question de la signification phallique qui se noue avec le père. Eh bien, c'est aussi quelque chose en même temps de très solide et en même temps qui peut être qui peut faire des névroses gratinées aussi, comme on dit, des névroses solides et parfois invalidantes aussi. Donc,
Bon, eh bien, on va remercier chaleureusement Véronique Mariage, en tout cas.
Voilà, c'était pour terminer. Merci.
Et on peut se retrouver en bas pour un petit verre. Et je vous souhaite au nom de toute l'équipe un bon été, en sachant qu'on vous fera suivre les informations concernant Pas à Pas durant l'été. Voilà, à bientôt. Au revoir.